Bonjour à tous et à toutes. Quelle joie de vous retrouver encore, de pouvoir exposer la parole du Seigneur, la parole qui nous édifie, la parole qui nous réconforte dans les moments compliqués dans notre quotidien. Et je salue en tout cas ceux qui sont en ligne, qui nous suivent aussi à travers YouTube. Bienvenue à vous ici à l'EIG. Bienvenue aussi à ceux que j'ai pas dit bonjour, nos invités, les amis, proches. Voilà, j'ai passé une semaine intense quand même. J'étais à l'Institut public de Genève. Une bonne semaine bien chargée en cours d'homilétique dans le livre des Actes. J'ai fini même la série avant que Franck puisse finir la série. Et voilà, c'était une semaine chargée, mais je devais aussi prêcher ce dimanche-là parce que Franck n'était pas là et je l'ai su 2 semaines avant. Et donc c'était pour moi un sacré défi, un sacré challenge. Mais quel plaisir de toujours plonger mon regard dans la parole du Seigneur. Surtout si c'est pour édifier, affermir l'Église de Christ. Et ce matin, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y a parmi nous, dans cette assemblée, des pratiquants de kung-fu, d'arts martiaux, peut-être des anciens qui pratiquent, ou ceux qui sont peut-être, qui aiment le sport de combat? Et bien justement, est-ce que vous avez déjà entendu parler du sport du combat, du MMA? Je pense que peut-être les jeunes générations ont entendu parler ou ont déjà vu ça, peut-être aussi des personnes âgées qui regardent ça. Et ce combat-là, en fait, le MMA, c'est né du Brésil en 1920 et qui a connu un grand succès mondial en 1990. Et cela nous montre des combattants bien entraînés physiquement, mentalement, pour s'affronter intensément dans la cage ou sur le ring. Et parfois, ça peut être troublant de se dire « mais c'est quoi le but? C'est juste de se mettre des coups et de KO ?» Et je peux comprendre que ça peut être un sujet controverse, un sujet où que, pourquoi la violence, ça peut faire ressortir beaucoup de choses. Et c'est légitime de se poser ces questions. Malgré cela, je pense qu'il serait réducteur de juger ce sport uniquement sur sa violence, sur sa brutalité. Car derrière chaque combattant, derrière chaque combat, il y a aussi des leçons spirituelles et physiques à apprendre, telles que la discipline de l'esprit, la maîtrise de soi, une volonté de se surpasser. Voilà la mentalité, la pensée du combattant. Et dans le MMA, malgré sa brutalité, qu'on peut voir des coups qu'il y a, il y a des règles quand même. C'est pas tout est pas permis, tout est pas permis. Et moi, je vois des consignes qui sont très claires. Deux consignes qui sont très très claires. Le premier consigne, c'est qu'il y a des coups qui sont interdits. Et je vais vous montrer les coups qui sont interdits. Le premier coup interdit, c'est le coup du serpent. L'aveuglement. On n'a pas le droit de mettre les doigts dans les yeux. Le deuxième coup, c'est le coup de la grue. La partie sensible. Voilà. Et le troisième coup, c'est le coup du lapin derrière la nuque. Et comment éviter ce coup-là? Par le respect profond de l'adversaire. Voilà. Les deux règles essentielles qu'il faut retenir. Des coups interdits, mais le respect aussi de son adversaire. Et pour nous, concrètement, le chrétien, n'est-il pas semblable à un combattant de MMA? On est violenté tous les jours, extérieurement, physiquement, intérieurement, spirituellement, par un adversaire qui, lui, bien au contraire, n'a aucun respect envers nous, n'a aucune limite envers nous, aucune règle. Il ne cherche pas simplement à nous mettre KO, il veut nous détruire, nous anéantir physiquement, spirituellement, afin de gagner sa cause. Et pour cela, il faut savoir qui est cet ennemi, comment se défendre, comment il procède dans sa manière de nous attaquer. Et la Bible nous en montre un exemple concret par ce combat légendaire, historique et unique, Jésus versus le diable, surpassant bien loin tous les grands boxeurs du monde, tels que Mohamed Ali, Mike Tyson et ceux qui ont vu le film Rocky Balboa. Voilà, Jésus va nous enseigner ce matin comment mettre KO l'adversaire. Prenons notre passage dans Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Alors, je vais vous le lire dans la version second 21, pour ma part. « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Je résumerai l'idée centrale de ce texte comme ceci. Une juste compréhension de l'Écriture nous immunise des attaques de l'adversaire. Qui est l'auteur de ce passage ? Matthieu, lui anciennement appelé Lévi, est un des 12 disciples de Jésus. Et parmi eux, on ne les a pas trop vus dans les évangiles, ils sont un peu restés en arrière-plan. Et son nom, il est affiché que 3 fois dans le Nouveau Testament. Il a écrit cet évangile pour répondre aux besoins spécifiques des croyants de sa propre région, pour la plupart des Juifs convertis au christianisme. Les 3 premiers chapitres du livre de Matthieu présentent la royauté de Christ, l'arbre généalogique. Jésus est le fils par excellence d'Abraham, le père des croyants. Le témoignage des mages venus d'Orient, des prophéties accomplies à son sujet du Messie, de Jean-Baptiste qui annonce que la venue du Messie est proche. Et Dieu le Père lui-même, le verset juste après, chapitre 3, déclare Jésus comme son fils bien-aimé au moment du baptême. Matthieu a un objectif précis, clair, présenter Jésus comme l'accomplissement parfait de l'espérance d'Israël. La promesse divine, le Messie tant attendu, le nouveau roi d'Israël. Pour confirmer ce statut de fils de Dieu, Jésus devra affronter 4 épreuves. La première épreuve que nous voyons ici, c'est l'épreuve de la préparation. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit pour être tenté par le diable. Dans d'autres versions de la traduction, j'ai pris le français courant ou Bible Second, le mot « tenté » est plutôt mis à l'épreuve aussi. Ce récit suit directement le baptême que Jésus précède, et Jésus est rempli de l'Esprit et conduit. C'est l'Esprit qui conduit Jésus dans le désert pour se préparer à la mission, à ce combat face au diable. Et c'est la première fois qu'on voit dans le Nouveau Testament que le mot « diable » est apparu. Le mot grec qui était « diabolos » signifie « calomniateur » ou « accusateur ». Ici, ce n'est pas le diable qui conduit Jésus, mais c'est Jésus se soumet à l'Esprit et va dans le désert. Et donc c'est rassurant que c'est l'Esprit qui nous emmène, parce que c'est Dieu qui est au contrôle des épreuves. C'est rassurant pour nous. Si nous marchons par l'Esprit, si l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert, ce n'est pas pour l'humilier ou le faire mal ou qu'il va pour se reposer, mais c'est pour être éprouvé, mis en situation par le diable. Et ce n'est pas négatif d'être tenté, d'être éprouvé, comme on pourrait le penser. Dire « Oh, la tentation d'être éprouvé, c'est négatif ». Eh bien, figurez-vous qu'en grec, le mot « tenter » ou « éprouver » est « perazo ». N'est pas toujours une connotation qui est négative. Elle peut se traduire par « être vérifié, testé, examiné ». Et dans ce passage, il est utilisé dans ce sens-là, dans une connotation plutôt positive et pas négative. Alors Satan va être le moyen utilisé pour nous éprouver, oui, mais Dieu utilise cette circonstance pour nous faire grandir, afin de parvenir à la maturité de la foi dans les épreuves. c'est-à-dire les circonstances adverses que nous rencontrons dans notre quotidien, l'oppression démoniaque ou les désirs, les tentations immoraux. Et Jésus est donc envoyé par l'Esprit dans le désert pour un objectif précis, clair, pour faire ressortir le caractère de Dieu en lui, dans une parfaite soumission au Père. Donc il ne faut pas oublier que c'est à travers les épreuves de la vie que Dieu cherche constamment en toi, en moi, en nous, à faire émerger Christ en nous. C'est dans les épreuves. Et vous, vous connaissez ça. Il veut affermir notre caractère. Et les Français et les Suisses connaissent bien ça, le caractère. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez qu'un bon fromage bien affiné a plus de caractère. Voilà. On a plus de goût. Voilà, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, bah Jésus a eu faim, forcément. Ce n'est qu'après 40 jours qu'on voit que le diable attend patiemment le moment pour attaquer. Le diable est vraiment un opportuniste. Là, on découvre, hein, on découvre l'identité de cet ennemi. Le diable est un opportuniste. Il attaque son adversaire lorsqu'ils sont faibles, quand ils sont isolés, quand ils sont en situation de fébrilité. C'est là, comme un lion rugissant qui attend sa proie. Il attend la proie la plus faible du troupeau, quand il est isolé. C'est dangereux pour nous de nous isoler. Très dangereux. Et il est évident qu'après avoir attendu 40 jours, Jésus était très fébrile. Et moi, je me dis, « Waouh, je rate juste un repas, je suis déjà fébrile. » Et lui, il a raté 140 repas. Si je devais compter 3 repas par jour sur 40 jours, ça fait 120 repas. Moi, un jour, je suis déjà fébrile, extrêmement fébrile. Mon cerveau ne marche plus, j'arrive plus à étudier. Voilà. Mais le chiffre 40, il est important ici. Il n'est pas exposé comme ça. Matthieu ne l'a pas exposé comme ça. Le chiffre 40 nous renvoie à Israël dans le désert. Nous renvoie à une période de purification, de préparation. Dieu a voulu que son peuple se purifie dans le désert, se prépare pour arriver à la terre promise. Et Moïse aussi a passé 40 jours et 40 nuits. Oh, c'est extraordinaire. Alors le jeûne de 40 jours que Jésus a vécu ici, Matthieu a voulu aussi que cet événement fasse écho aussi à ce que Israël a vécu, ce moment de préparation. Tout comme un boxeur, quand il sait qu'il a un combat préparé, il va s'abstenir des aliments qui peuvent être néfastes pour sa préparation. Et bien Jésus, c'est pareil. Il va s'abstenir des aliments, de manger pendant 40 jours, pour se préparer au combat, en se concentrant non pas sur le manger, non pas dans le monde, mais sur Dieu et sa parole. Et c'est ce que nous devons faire. Et comme Franck l'a rappelé la dernière fois, dans son dernier message, le jeûne n'est pas un moyen d'attirer les faveurs de Dieu, d'obtenir une bénédiction, ou de tordre le bras de Dieu. Mais c'est une privation. C'est une privation volontaire. Le jeûne, c'est une privation volontaire. Pourquoi ? Pour se consacrer à lui. Puiser nos forces en Dieu. Recentrer nos priorités en Dieu. Et que nous soyons dépendants de Dieu. Dans cette période de jeûne, Jésus a prié, a médité. Et dans le monde évangélique, on appelle ça l'orthodoxie. Le Seigneur connaissait les Écritures. Il les méditait, priant le Père dans une communion parfaite. Comme dans le combat de boxe, la condition physique du combattant ne fait pas tout, mais la condition mentale rentre également en jeu. Quand nous prions, quand nous lisons sa parole, notre condition mentale se forge dans la connaissance des Écritures. Et dans la connaissance de la volonté que Dieu a pour nous, elle reflète une communion profonde avec Dieu et se manifeste dans la manière où nous agissons chaque jour dans notre quotidien, afin, encore une fois, de refléter Christ à travers nous. Cela nous pousse à la mise en pratique concrète de la parole de Dieu, l'orthopraxie. Il y a deux combattants ici. Ils ont la même tête, la même carrure. Ils sont identiques. Comment savoir qui est le vrai boxeur? C'est compliqué. Physiquement, c'est pareil. Peut-être mentalement, ils sont prêts. Mais ce qui va faire la différence, c'est que l'un va appliquer les règles de la boxe. Et quand il va cogner, on va voir que c'est un boxeur. Mais l'autre, il va boxer avec le talent. Il n'applique pas les paroles, la technique de la boxe. Il va boxer au feeling. Mais à un moment donné, ses coups ne seront pas aussi violents que le vrai boxeur. Et il sera vite mis au tapis. Alors, nous, sommes-nous des chrétiens qui ont simplement la carrure et la connaissance, mais un manque d'application concrète des principes bibliques? Ou êtes-vous plus proche du vrai boxeur ou du faux? Je vous invite à retenir ceci. C'est sur le ring qu'on découvre le véritable boxeur et dans le désert qu'on découvre le véritable chrétien. Jésus est enfin prêt maintenant. Ça y est, vous allez voir l'ultime combat là. Physiquement et mentalement, il est prêt. Jésus est prêt. L'épreuve de la préparation est réussie. Le maître va démontrer maintenant qu'il est le vrai boxeur. Il va remporter la victoire au diable face à 3 rounds. Premier round, c'est parti. L'épreuve de la confiance. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » En disant cela, que cherchait Satan? C'est enfin simplement de provoquer Jésus. Fait quelque chose d'inapproprié. Il trouve un moyen de le faire chuter. Les propos du diable, ça me fait penser à quelque chose quand on était enfant. Je pense que vous avez vécu ça, ce moment-là. Quand vous étiez enfant, vous n'avez jamais dit ça. Hey, si t'es un homme, t'es même pas capable de faire ça. Ça vous rappelle votre enfance? Hein? Ouais, mais le texte, il veut pas nous amener dans ce sens-là. Le texte, il veut nous rappeler la Genèse 3, pas la Genèse. La tentation d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ça vous rappelle quelque chose? Quand le diable, il vient, oui, bah transforme ce pain si tu es vraiment le Fils de Dieu. Mange l'arbre de fruits. Ça vous fait penser quelque chose, ça? Hein? Et je vais me lâcher, voilà Franck. Il n'est pas là, je m'en fiche. Il ne pourra pas savoir. Le serpent, le plus rusé des animaux, des champs, comme il l'a fait pour Adam et Ève en semant le doute. Si tu es le fils, peut-être tu le fais pas aussi bien que Franck, fils de Dieu. En gros, Satan, ce qu'il veut dire, c'est prouve-moi, prouve-le que t'es le fils de Dieu. T'es même pas capable de transformer cette pierre en pain. Quelle offense, hein. Quel culot de Satan. Est-ce que Jésus avait la capacité de transformer ses pierres en pain? Mais bien sûr, nous le voyons après plus loin, quand il nourrit la foule. Il ne transforme pas 2 cailloux ou un caillou en pain, il en transforme des milliers de pains. Mais il le fait dans le projet, le plan parfait de Dieu, à la soumission, au bon moment. Il ne va pas le faire pour satisfaire le diable. Voilà. Et Jésus le dit dans Jean 4, verset 34, « Ma nourriture n'est pas de faire la volonté de et ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Depuis le baptême de Jésus, Jésus, ça y est, il est missionné officiellement. Tu es mandaté par le Père pour accomplir les œuvres que je te dirai et de dépendre de moi et de compter que sur moi. Donc, dans la faiblesse physique du jeune, Christ a probablement été tenté, peut-être, de douter du soutien du Père. Peut-être, on ne sait pas. Mais ça nous montrerait quelque chose si Jésus avait douté. C'est de céder à la panique, c'est suivre les injonctions du diable. C'est suivre le diable. C'est affirmer que le Père est incapable s'il aurait cédé. Et la tentation ici, que Satan veut dire, c'est ne compte pas sur ton Père. Utilise tes propres forces. En transformant ces pierres en pain, cela a révélé beaucoup de choses, beaucoup de vérités, une forme d'orgueil, une forme d'autosuffisance, ou même d'incrédulité, en remettant en cause la providence de Dieu. Parfois, quand je lis ça, je me dis, je suis tellement incrédule aussi. Parfois, je me dis, ouah, mon orgueil il est si grand, et je ne mets pas Dieu en premier dans ma vie, parce que je cherche mon autosuffisance. Je suis tellement incrédule. pardonne-moi. Ça m'amène à la repentance quand je vois ça. Ainsi, le chrétien qui agit seul, indépendamment du Père, est très révélateur de son orgueil, de son autosuffisance et de son incrédulité vis-à-vis de la providence de Dieu. La providence de Dieu. C'est indirectement, c'est comme si je disais, Dieu, tu es incapable. Indirectement. Mais Jésus est mon espoir et notre espoir. Il ne va pas tomber dans les pièges du diable. Le diable a cru mettre Jésus au tapis dès le premier round. Mais non. Non seulement Jésus va rester debout, fermement, mais il va rester en position, en lui mettant un gros punchline dans sa face. Il écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Réponse claire. Jésus répond par les Écritures, pas par lui-même, mais simplement par les Écritures, en guise de parade pour contrer l'adversaire. Il cite un verset de la Bible, et plus précisément ce verset-là, qui est dans Deutéronome 8, verset 3. Il prend un passage dans son contexte précis. Et que dit ce passage ? Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. C'est ça l'épreuve. Ne retrouvons pas le thème là de l'importance du sens de la preuve. Elles sont là pour nous éprouver nos émotions profondes, nos motivations profondes, notre véritable confiance à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir du tout à nous voir souffrir. Il faut sortir cette idée-là de la tête. Il veut voir ses véritables fils, ses véritables filles à travers le désert. C'est ça que Dieu veut. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu les pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que Dieu vit, mais que l'homme vit de tout ce qui en sort de la bouche de l'Éternel. Israël était passé par ce moment précis dans le désert, sans nourriture, sans eau, pour apprendre cette leçon première. Bien que nous avons besoin de la nourriture, il est important de le dire aussi, c'est vrai, pour le corps. Mais le but de la vie du chrétien est de dépendre de ce que Dieu ordonne. Et c'est sa providence qui pourvoit à nos besoins essentiels, dans la manière et au moment qu'il choisit. C'est lui qui choisit, c'est pas nous qui choisissons. Jésus considérait la volonté de son Père comme plus importante que sa satisfaction de ses appétits. Divers appétits, la nourriture, la convoitise, tout ce que le monde peut nous proposer. L'homme ne dépend enfin que de la volonté de Dieu. Même si une personne possédait toutes les ressources matérielles ou toutes les nourritures du monde inimaginables, est-ce que cela garantira sa vie ? Premièrement, sa vie. Et deuxièmement, son bien-être. Est-ce que ça garantira ? Non. Et donc, en citant Deutéronome 3, Jésus veut en venir à nous montrer que là où Israël a échoué sur l'épreuve de la confiance, lui va réussir cette épreuve. Et nous devons aussi suivre ce modèle afin que nous aussi, nous triomphons dans la confiance avec Dieu. Alors Satan, voyant qu'il a perdu le premier round, nous pouvons briser la confiance inébranlable que Jésus avait envers le Père, il va s'y prendre d'une autre manière. Et nous voilà au deuxième round. L'épreuve de la connaissance. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied heurte une pierre. Voyant que Jésus avait une totale confiance en son Père, qu'il était totalement soumis aux Écritures, il va chercher cette faille, là précisément. Satan enlève son masque de serpent rusé pour mettre en masque son masque de théologien manipulateur. Waouh ! Le diable, attention, hein, il est très, très, très rusé. Satan va utiliser les Écritures pour écarter Jésus de sa mission première, pour le mettre KO. Le texte que Satan utilise est utilisé ici, c'est tiré du psaume 91, versets 11 à 12. Le diable a-t-il choisi, ah tiens, un psaume 91 par hasard ? Non, certainement pas. Le diable, il n'est pas si bête que ça. Le psaume 91 explique que Dieu assure la protection à ceux qui demeurent en lui et qui trouvent refuge en lui. À première vue, ce texte semble correspondre à la situation que Jésus est, au-dessus du temple, dans le vide. Et voilà, si j'ai ma protection, si j'ai confiance en Dieu, si je respecte la parole, je saute, Dieu va me sauver. Le diable va lui dire, voici ce que dit l'Écriture à ton sujet. Dieu va assurer ta protection. Obéis, saute, et le Père enverra ses anges pour te secourir. Est-ce que c'est vraiment ça que le psaume voulait nous dire ? Non, c'est un théologien manipulateur. Il a déformé les Écritures. Je vais vous montrer comment. Voici le psaume 91, verset 11 à 12, tel qu'il est écrit dans son original. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Voyez-vous une différence ou pas ? Flagrante même. Le diable a volontairement supprimé un texte. De te garder dans toutes tes voies. Il a supprimé ce texte-là. En supprimant ce texte, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a déformé le sens du psaume. De te garder dans toutes tes voies, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que dans toutes celles dont Dieu a fait ta route et où tu marcheras en son nom. Rappelez-vous, au début, au premier verset, c'est l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Et ici, au verset 5, c'est le diable qui conduit maintenant. Qui conduit. Non pas dans le désert, mais dans la sainte ville, Jérusalem. Mais Jésus, inébranlable, démontre encore une fois une connaissance véritable des Écritures, ne permettant pas de le manipuler, de le tordre en déformant la parole de Dieu. Oui, parce qu'en cela, en déformant, en ne connaissant pas la parole de Dieu, quels sont les risques ? Les risques, c'est qu'on sert la parole à nos besoins, à nos intérêts personnels. Et qu'est-ce qu'on fait ? On reproduit exactement l'œuvre du diable. Eh oui. Des fois, des personnes disent « Oui, mais la Bible a dit ça, je peux faire ça. La Bible a dit ça, et c'est peut-être pas très grave. » Finalement, on se comporte comme le diable en étant comme ça. Je vous prends un exemple. Quand je fais ma prédication, même celle-là, eh ben, Franck, il me corrige. Et à chaque fois qu'il me corrige, il me le dit, mais il me l'a même dit en cours, j'étais mort de rire. Et il me dit, attention Damien, je vais sortir mon sabre spirituel. Je vais te sabrer, toi et ton texte. Je fais, wow, il est chaud Franck, hein. Il est chaud, bon il n'est pas là, c'est pas grave, je le fonce pas. Oui, mais je le fais confiance, Franck. Il me dit ça. Ça peut faire peur au début, mais je sais que Franck est un formateur bienveillant. Il me l'a montré. Il me l'a prouvé. Oui. Et qu'il utilise bien ce sabre. Ça, c'est sûr. Et donc, ça m'aide à ma croissance. Ça m'aide à ma connaissance dans ma compréhension de la théologie biblique et dans ma progression dans mes messages. Afin d'avoir un objectif très clair derrière. Ce sabre n'est pas là pour me sabrer, me découper en saucisson, mais afin de servir et enseigner fidèlement à l'Église Voilà l'objectif de l'arme, du sabre. Et il y en a qui me disent, ah mais Damien, ça doit être dur hein, ton stage. Hein. Franck, il te sabre tout le temps. Moi, j'aurais mal. Hein. Le Seigneur s'est humilié devant la parole. Je m'humilie devant mon formateur. Ouais. Il en va de même pour les Écritures. Elles sont une arme puissante, une source de vérité. Même si elles sont mal utilisées, mal interprétées ou manipulées pour servir des intérêts personnels, elles peuvent causer beaucoup de tort, éloigner les gens de la vérité. On agit comme le diable. Attention, Franck, ton sabre. Hein. Fais attention, c'est tout. Parce que ça peut être dangereux. Il peut me blesser aussi en voulant trop me sabrer, peut-être. Me décourager. En réponse à Satan, déguisé en théologien manipulateur, Jésus lui dit « Mais j'ai hâte de te décrocher un deuxième punchline dans ta face. » En disant, il est aussi écrit « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Que veut dire l'expression « Tu ne provoqueras pas » J'ai pris une autre traduction qui est « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Tenter Dieu, c'est exiger de sa part un acte que nous voulons. C'est ça qu'on veut. À travers une exigence, en exigeant à Dieu, fais-moi ci, fais-moi ça. En forçant la main de Dieu, en tendant la parole. C'est un grave péché. Rappelons-nous, Dieu n'est pas notre serviteur. Il est donc nécessaire pour un chrétien de ne pas passer à côté de l'épreuve. L'épreuve qui était si importante, de continuellement se former à étudier la parole, les Écritures, dans son contexte. Il y a plusieurs moyens mis à disposition, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Dieu nous a mis l'Église, Christ nous a donné l'Église pour nous équiper. Il y a des écoles de théologie, comme l'IBG, je ne vais pas faire sa promotion. Il y a aussi des formations en ligne, IBG Online. Des groupes de croissance, des groupes de maison, des soirées prières, il y a les pasteurs, il y a les anciens qui sont là, ils peuvent répondre à vos questions. Donc l'épreuve de la connaissance ici consiste à comprendre qu'il est important de connaître les Écritures dans son contexte précis, ce que l'auteur veut dire. Mais c'est aussi de savoir les applications, de les appliquer de la bonne manière après. Fidèlement à la lumière des Écritures. Jésus connaissait parfaitement les Écritures. Ainsi, ce qu'il devait faire était très clair. Il le dit lui-même dans Matthieu, chapitre 5, verset 17. « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » L'objectif très, très, très clair était là. Alors le diable, voyant qu'il a perdu ce deuxième round, en n'arrivant pas à faire face à briser la confiance de Jésus envers le Père, ni en le manipulant, en déformant les Écritures, il va jouer son joker, en voulant faire un coup de poker. Dans l'épreuve de la fidélité, c'est là qu'il va tout jouer. Et nous, je pense qu'on sera déjà tombé, déjà depuis bien longtemps. Mais Jésus nous montre là, non, vous pouvez aller jusqu'au bout là. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Pour cette dernière tentative, le diable enlève encore une fois son masque de manipulateur théologien, mais il devient un séducteur, cherchant encore à conduire Jésus, fils de Dieu, dans la voie du péché. Je suis devenu un séducteur, je vais te séduire Jésus. Par le biais de la séduction, et ça c'est un vrai danger pour nous, la séduction, en s'appuyant sur les désirs naturels de l'homme. Il connaît très bien comment nous agissons, il connaît très bien comment nous nous comportons, nos désirs, nos convoitises, il connaît. Il va s'appuyer sur les désirs de l'homme, c'est-à-dire la convoitise des yeux, la quête du pouvoir, la domination, l'aspiration à la gloire personnelle, représentée par la richesse, la fortune. Satan tente Jésus de renoncer à la mission que le Père lui a confiée. l'incitant à rechercher sa propre gloire, sans avoir passé par la souffrance de la croix. Il lui dit, ne perds pas ton temps, ne perds pas ton temps, Jésus, pour ces hommes-là qui sont rebelles, mauvais. Je t'offre un raccourci, moi. Prends possession de la richesse de tous les royaumes que tu vois ici, c'est à toi. Vis ta vie en tant que roi. Sois dans prospère, mais moi comme ton Dieu. Ouais. Vous voyez le rôle de Satan. C'est incroyable. Satan cherche à nous séduire également. Il ne va pas venir comme Jésus, comme il est venu avec Jésus, probablement, en nous disant, voilà, je te montre tous les royaumes, il va nous emmener sur une montagne, non, peut-être pas comme ça. Mais il utilisera les moyens du monde pour nous séduire. Les tentations des yeux, de la chair. Si le chrétien n'est pas préparé pour sa mission, il n'est pas préparé par l'esprit, en étant conduisant par l'esprit, alors Satan va le séduire très 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 rapidement. Il succombera facilement. Il existe une tentation constante en nous-mêmes de chercher la gloire, le pouvoir et la richesse sont les standards du monde. Mais la vérité, le véritable chemin de la gloire passe par la vérité, la fidélité à Dieu et par l'acceptation des épreuves qui nous conduisent à lui. En cherchant à honorer Dieu dans une confiance inébranlable comme Christ, plutôt qu'à chercher notre propre gloire. Et c'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus. En rejetant l'offre de Satan, Jésus affirme sa fidélité totale à Dieu, le Père, en rappelant l'adoration appartient uniquement à Dieu. La réponse que Jésus va donner à Satan est aussi directe qu'un crochet, aussi nette qu'un homme percute. Il va lui dire, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. C'est lui seul que tu serviras. Jésus va le finir là, en disant, finis de jouer Satan, retire-toi, retire-toi. C'est un impératif, un crochet direct. Satan KO ne peut plus rien faire. Il ne peut que baisser la queue comme ça et la tête et obéir à ce que Jésus dit. Mais c'est pas tout. Jésus ne va pas rester là. Jésus va le punir pour son acte d'infidélité envers Dieu en utilisant la parole, en lui décrochant ce dernier punchline. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. C'est lui seul que tu serviras. Ce passage dans Deutéronome 6, chapitre 13, il faut toujours reprendre un verset dans son contexte. Alors je vous fais une petite synthèse du contexte. Ce verset fait partie du passage où Moïse rappelle à Israël, aux Israélites, l'importance de rester fidèle à Dieu et de lui obéir lorsqu'ils entreront dans la terre promise. Il enseigne les principes fondamentaux. C'est les principes fondamentaux là, de la foi, la crainte de Dieu, une vie de service, faire la volonté de Dieu. Principe fondamental. Ce que nous devons retenir alors pour nous, c'est que le projet initial et le devoir principal de chaque chrétien, chaque croyant, et je dirais même chaque homme, est de craindre et d'adorer Dieu. Tout ce qui empêche cette crainte, cette adoration, ce service, est un affront direct à Dieu. Alors retenez cela. Adorer, c'est servir. Servir, c'est adorer. La fidélité de Jésus, ici, est une fidélité sans compromis. Il ne cherche pas à vouloir y tirer, déformer quelque chose, en refusant d'abandonner son plan divin pour des gains. Non. Ce passage montre un modèle parfait de la fidélité inébranlable à Dieu, quoi qu'il en coûte. C'est l'exemple parfait pour nous. C'est ainsi que Jésus mit fin. Ça y est, le combat est terminé. Il a triomphé. Jésus a triomphé le diable. Alors le diable le laissa, et voici des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Après avoir refusé de servir de ses capacités divines que Satan a voulu, les anges, quand il a réussi sa mission, les gens sont venus. Sont venus pour soigner, prendre soin de lui. Ça y est, maintenant, ton ministère peut commencer. Validation, en fait. Les anges sont venus. Tu es l'agneau. L'agneau parfait. Ils sont venus pour ça, les anges. Conclusion. Bah, vous voyez qu'un match de boxe, normalement, c'est sur 12 rounds. Moi, je vais jamais regarder les matchs de boxe, c'est trop long. Mais là, j'aime bien, parce que Jésus, il a mis 3 rounds, c'était fini déjà. Donc ça m'arrange, je lui dis, ah, c'est trop bien, 3 rounds, il a mis KO. Pff, incroyable, ça m'intéresse. Si de telles épreuves, Dieu l'a permis à son fils, dites-vous que on n'y échappera pas. Les disciples, qui sont fils de Dieu aussi, ils seront confrontés inévitablement. Mais ils peuvent trouver ici une vraie consolation. L'Esprit conduit Jésus. L'Esprit conduit Jésus. Dieu est au contrôle. Mais il y a aussi un deuxième aspect de la réalité. C'est comme le Fils a été, comme nous, tenté en toutes choses, mais lui sans commettre le péché, il sera capable, lui, de compatir à nos faiblesses. Il compatit, il sait ce que nous traversons dans ce désert. Peut-être que vous traversez un désert, mais Jésus, il a traversé ça. Il compatit, mon enfant. J'ai moi-même vécu ça. Et je n'ai pas usé de mes pouvoirs divins. J'étais comme toi, un homme de foi. J'ai répondu avec la parole. Comme toi, tu en es capable. Mais es-tu, veux-tu te préparer? Veux-tu être mis à l'épreuve pour ça? Jacques nous donne le consigne du jour. Si tu veux mettre KO le diable, Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Dans Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà, je lance un appel. Peut-être que parmi cette assemblée ou parmi les gens qui nous suivent online sur YouTube, peut-être que tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie. Peut-être que tu es en pleine réflexion dans ta vie. Peut-être que tu viens d'un arrière-plan, comme moi, animiste, ou que les manifestations du diable sont présentes dans notre quotidien. Peut-être que tu vis cet esclavage du diable, du péché, et que tu as un dégoût profond pour toi. Ou peut-être que tu veux mettre fin à tes jours. Car je sais que le diable va nous emmener dans ce chemin-là, si nous n'avons pas l'arme pour nous défendre. Je suis descendant d'une grande lignée de chamans, génération de mon grand-père, mon père. J'ai vécu cela. Le mensonge du diable, il prend l'apparence. C'est un serpent malfaiteur. Il utilise son armée, sa légion de démons pour nous détruire. Par le mensonge, par la tromperie. Il veut nous saigner, clairement. Peut-être que dans ta vie, tu vis des attaques spirituelles, physiques. Tu dis, mais comment je peux faire? C'est insupportable, jour et nuit. Peut-être que tu traverses aussi également, tu es dans ce désert profond que Jésus a traversé. Alors je te pose la question, que veux-tu faire? Comment veux-tu faire face à cela? Jésus a une réponse très claire et il veut t'adresser ce message. Viens à moi tel que tu es. J'ai mis KO le diable, mais pas seulement, j'ai aussi mis KO le monde. Je l'ai dit dans Jean 16, verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous soyez en paix. Afin de souffrir dans le monde, vous aurez à souffrir, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le diable, 3 rounds, le monde aussi. Il est le moyen par excellence, l'arme par excellence que tu dois saisir, que moi j'ai saisi il y a 5 ans. Et suivi par emmené par l'Esprit, aujourd'hui je n'ai aucun mérite de me dire de me présenter devant vous à donner la parole du Seigneur. Aucun mérite. mon niveau scolaire, mon métier. Je ne savais pas comment valoriser mon métier dans le ministère. Je viens de loin, famille très pauvre, très modeste, parents séparés, famille éclatée. Pourtant, je suis là devant vous. Alors, Dieu peut le faire pour toi aussi. Soyez tous dans la paix du Seigneur.